RFI, il est minuit à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
Bonsoir à toutes et à tous. Une demi-heure d'information consacrée à l'actualité française, c'est 24h en France.
Christophe Paget.
François Bayrou se défend et insiste, il n'est pas intervenu dans une enquête pour viol dans l'établissement scolaire catholique Betterame, contrairement à ce qu'affirme un gendarme interrogé hier par une commission parlementaire. Nous entendrons le Premier ministre au début de ce journal. À Lyon, deux médecins déposent plainte contre les hospices civils de Lyon. Ils accusent leur ancienne hiérarchie de pratiques de greffe à risque et d'essais cliniques illégaux. À suivre le reportage de Sophie Godard-Volatier. Et puis, va-t-on vers une nouvelle loi pour mieux indemniser les harkis? Un nouveau texte a été présenté ce vendredi à l'Assemblée nationale.
24h en France.
Dans une douzaine de minutes, la star malienne Salif Keita sera notre invité. Il sort un nouvel album, Sokono. Et puis ce vendredi, c'était le dernier jour du festival de danse contemporain On Marche à Marrakech. On s'intéressera à la jeune génération.
RFI.
François Bayrou le maintient. Il n'est pas intervenu dans une enquête pour viol dans l'établissement scolaire catholique Notre-Dame de Betterame. Contrairement à ce qu'affirme un gendarme interrogé hier par une commission chargée d'enquêter sur ce dossier. Lors d'un déplacement à Coulommiers ce vendredi, le Premier ministre a catégoriquement démenti ces accusations.
Bah, les juges et les gendarmes, vous savez, ça se trompe comme les autres. Moi, je vous dis que de toute ma vie, jamais je ne suis intervenu dans aucune affaire judiciaire. Et si quelqu'un peut venir me voir en disant « Vous êtes intervenu, j'y étais », à ce moment-là qu'il vient. Donc, ceci n'est pas la vérité, et le contraire de la vérité. Alors, il y a peut-être des gens de bonne foi, des gens qui ne savent plus ce qu'ils avaient à cette époque, mais tout cela sera prouvé.
François Bayrou qui répondra aux questions de la commission d'enquête le 14 mai prochain. Dans l'affaire des assistants parlementaires, des eurodéputés du Rassemblement National, sur les 24 personnes condamnées par le tribunal correctionnel de Paris, seules 12, dont Marine Le Pen, ont fait appel de leur condamnation. Toutes avaient jusqu'à jeudi minuit pour le faire. Le procès en appel prévu pour le premier semestre 2026 devrait donc être plus court que le premier, qui avait duré 2 mois. Du côté du Parti Socialiste, on prépare le congrès du PS, le 81e congrès, ce sera dans 2 mois. Et on organise la fronde contre le premier secrétaire Olivier Faure. Ce vendredi, 3 de ses principaux opposants ont indiqué qu'ils fusionnaient leurs courants pour déposer un texte commun. Et histoire de mettre toutes les chances de leur côté, ils tendent la main à un 4e opposant. Dans 2 mois, à Nancy, lors du congrès, les quelques 40 000 adhérents au PS voteront sur les textes d'orientation et seuls les premiers signataires des 2 motions arrivées en tête pourront concourir pour être premier secrétaire. À Lyon, 2 médecins portent plainte contre les hospices civils de la ville où ils ont travaillé par le passé et contre 4 de ses responsables. Ils accusent leur ancienne hiérarchie de pratiques de greffe à risque et d'essais cliniques illégaux. En décembre dernier, ils avaient déjà porté plainte à Lyon, mais sans nouvelles, affirme-t-il, du ministère public. Ils ont décidé cette fois de saisir le pôle de santé publique du parquet de Paris. Sophie Godard-Volatier.
La plainte porte sur des accusations de mise en danger de la personne, violence mortelle et non-assistance à personne en péril notamment. Concrètement, les 2 médecins accusent les hospices civils de Lyon d'avoir autorisé des transplantations à risque sur des patients fragiles, très susceptibles de rejeter leur greffe, mais aussi de s'être livrés à des essais cliniques sauvages. Ils auraient administré à certains patients un protocole pour lutter contre les rejets, comportant un médicament non autorisé dans le cadre de greffe. Tout cela, sans consentement des patients, dénonce leur avocate Christelle Mazat.
Quand vous avez des patients qui ont un trop fort risque de rejet, on est sur des pratiques cliniques un peu spéciales, pour lesquelles visiblement ce service n'était pas d'ailleurs spécialisé. Et il semblerait qu'il y ait des patients où on a provoqué un rejet de greffon pour tester un protocole et voir si ce protocole-là permet d'organiser le non-rejet du greffon par le patient. Vous ne pouvez pas pratiquer ces essais, 1, sans le consentement du patient, et 2, de manière totalement sauvage, sans encadrement.
D'après les plaignants, ces pratiques auraient entraîné une dégradation de l'état de santé de 5 patients, dont l'un, âgé de 67 ans, est décédé.
Sophie Godard-Volatier. Direction maintenant les Antilles-Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, qui font face à des pénuries alimentaires. Ces pénuries de produits frais durent depuis le mois d'avril et elles ont pour origine des mouvements sociaux à Trinidad et Tobago et dans les ports français, où les dockers sont mobilisés depuis le mois de janvier contre la réforme des retraites. Reportage Emma Chevalier.
Dans les rayons des supermarchés de Guyane, les consommateurs remarquent depuis plusieurs semaines l'absence de certains produits frais.
Il manque de tout partout en ce moment. Beaucoup de fromage, beaucoup de frais.
Et avec la pénurie, évidemment, ce sont les prix les plus chers.
Des mouvements sociaux, principalement dans l'Hexagone, sont à l'origine de ces retards de livraison. Jean-Claude Florentini, secrétaire général du regroupement des importateurs antillais.
Enfin, la raison majeure, elle est liée surtout à les mouvements des ports français qui ont été en grève depuis le mois de janvier avec des opérations ports morts qui ont considérablement affecter à la fois les rotations et puis perturber les chaînes d'approvisionnement.
Pour Jean-Luc Le West, vice-président de la collectivité territoriale de Guyane en charge de l'économie, les territoires ultramarins doivent sortir de la dépendance envers l'Hexagone.
Il devient aujourd'hui nécessaire pour nous de pouvoir regarder et d'accélérer le processus d'importation entre la Guyane et le Brésil.
Même son de cloche du côté des importateurs antillais. Beaucoup attendent la signature du traité de libre-échange avec le Mercosur pour développer les importations avec les pays sud-américains. Emma Chevalier, Cayenne, RFI.
Et même si la CGT a annoncé mettre un terme à la grève dans les ports français, le retour à la normale dans les supermarchés n'est attendu qu'à la fin du mois. Il y a 3 ans, une loi historique était adoptée par le Parlement français, un texte qui reconnaissait la responsabilité de la France dans le sort des harkis. Après les accords d'Évian, qui mettaient fin à plus de 130 ans de colonisation française, ces combattants algériens pro-français et leurs familles ont été accueillis dans des camps où régnaient des conditions inhumaines. Et cela a duré de 1962 à 1975. Une commission a été créée pour, entre autres, indemniser les survivants et leurs descendants. Mais les critères retenus ne satisfaisaient pas la communauté harkie, une communauté qui a gagné un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme et qui a obtenu de plusieurs députés une nouvelle proposition de loi. Elle était présentée ce vendredi à l'Assemblée nationale. Aurélien Devernois.
Parmi les associations de harkis et de leurs descendants, le consensus règne. La loi de 2022 présente trop de failles pour être acceptable. Explication d'Ahmed Akaba, fils de harkis et avocat.
La loi crée évidemment une discrimination en ce qu'elle exclut du système d'indemnisation un certain nombre de personnes qui ont eu à subir des préjudices et qui n'ont pas transité dans des camps.
Des associations soutenues par l'insoumise Zaya Hamdan, elle-même fille de harkis. Parmi ces propositions, un élargissement des critères d'éligibilité et l'inclusion de représentants harkis dans une nouvelle commission d'indemnisation.
Il y a des manques effectivement qu'on tente de résorber avec cette proposition de loi qui n'est qu'une étape dans le parcours de réparation.
Depuis 2022, 16 000 personnes ont été indemnisées, mais plusieurs dizaines de milliers seraient laissées de côté selon les associations. Et surtout, le temps presse, selon Aurélien Saint-Toul, autre député insoumis.
Il y a quand même cette problématique qui se pose pour énormément de personnes, c'est que le vieillissement des personnes qui sont les premières concernées ou les plus directement concernées, et on ne veut pas que ça s'épuise.
La proposition de loi devrait être soumise à l'Assemblée début juin. D'ici là, l'objectif est d'élargir le nombre de signataires, même si le texte est déjà transpartisan, soutenu par la droite républicaine, le mouvement démocrate, ainsi que les socialistes et les écologistes.
On en vient maintenant au cas de Boualem Sansal, écrivain franco-algérien incarcéré depuis la mi-novembre en Algérie et condamné il y a 2 semaines à 5 ans de prison. Boualem Sansal, âgé de 80 ans, malade, qui a fait appel, et des discussions seraient en cours depuis entre Paris et Alger pour une éventuelle grâce. Des négociations qui se poursuivent, selon Emmanuel Macron, qui était interrogé ce vendredi lors du Salon du Livre à Paris.
Écoutez, nous travaillons pour que les décisions soient prises dans la bonne direction et nous savons que bien d'abord. Si redire combien nous pensons à lui et à sa famille, bien il est à la fois un auteur important et un grand écrivain pour nous tous, et aussi un homme qui doit se soigner. Notre souhait le plus ardent, et ce sur quoi nous travaillons, c'est que les autorités algériennes puissent prendre la décision qui lui permettra de recouvrer sa pleine liberté, de se soigner, de pouvoir réécrire.
C'est ce que nous avons. Très optimiste,
monsieur. Je suis confiant parce que je sais qu'il y a une attention particulière et simplement, voilà, j'attends les résultats.
Et ces derniers jours, les tensions semblent s'être quelque peu apaisées entre Paris et Alger. Des tensions vives depuis 8 mois après la décision du président français de soutenir un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara occidental. Ce dimanche, c'est la 48e édition du mythique marathon de Paris. Plus de 55 000 coureurs vont s'élancer. Objectif, arriver à parcourir 42 km 195 à travers la capitale française. Et la course à pied, c'est un sport qui attire de plus en plus de pratiquants. Pour preuve, le nombre d'inscrits au marathon de Paris qui a augmenté en 10 ans de 35%. Reportage, Tanita Fallet.
Parmi les inscrits au marathon de Paris cette année, la moitié courront 42 km pour la première fois. C'est le cas de Corentin.
On va dire que c'est la crise de la trentaine. On s'est motivé avec 4 potes à le faire. Et voilà, c'est notre premier à tous les 4. Je cours 4 fois par semaine là, pendant la prépa. Là, entre 60 et 70 km par semaine.
Et de plus en plus de femmes se retrouvent sur la ligne de départ. En 3 ans, elles sont passées de 25 à 31%. C'est le cas de Mathilde qui s'entraîne très sérieusement.
Je cours tous les jours.
Mais quand on lui demande comment elle se sent...
Très stressée, mais tous mes potes me disent que je suis assez pour entraîner, donc ça devrait aller.
Une rigueur que s'impose également Mamadou, ce serveur de 37 ans court depuis qu'il est adolescent, mais quand on lui parle du marathon...
Le marathon de Paris cette fois, sinon, mais le semi pour l'année prochaine, oui.
Car il n'envisage pas de vivre sans course à pied.
Pour moi, courir deux à trois fois en dehors du travail, c'est un vrai kiff, quoi.
Comme Mamadou, Mathilde et Corentin, ils sont 12 millions de Français à pratiquer la course à pied, selon une étude de l'Observatoire du Running.
On en parlait, Emmanuel Macron était au Salon du Livre ce vendredi et on y a parlé droit d'auteur. Actuellement, le livre d'occasion fait vivre de grandes plateformes commerciales comme Momox, Amazon ou même Vinted. Et sur ces livres, les éditeurs et les auteurs ne touchent rien. Le ministère de la Culture a indiqué que Rachida Dati saisissait le Conseil d'État pour mettre en place un droit de suite au droit d'auteur qui s'appliquerait lors des différentes reventes du même volume. Netflix a lui aussi saisi le Conseil d'État. Le géant américain conteste ce qu'on appelle la chronologie des médias, qui l'oblige à attendre 15 mois avant de diffuser sur sa plateforme un film qui vient de sortir en salle. Netflix veut que ce délai soit réduit à 12 mois sans pour autant augmenter sa contribution au cinéma français. Contribution qui s'élève actuellement à 50 millions d'euros par an, soit 4% de son chiffre d'affaires dans le pays. RFI, minuit 11 à Paris.
24 heures en France. Christophe Paget.
Un petit test maintenant, juste pour vous. Qui a interprété Yamor, Madan ou Kabé, ces tubes qui ont fait de lui la voix d'or de l'Afrique? Évidemment, c'est Salif Keita, la star malienne, qui sort aujourd'hui un nouvel album, So Kono. C'est son premier projet acoustique en plus de 5 décennies de carrière. Le poète et auteur militant mandingue, qui est aussi proche de la junte au pouvoir au Mali, revient sur la genèse de son nouveau disque, né en 2023 lors d'un festival à Kyoto au Japon. Il est interrogé par José Marinho.
Adiara sisela mali sigidiara fununkenena sisele bebe numa.
Salif Keita, bonjour.
Bonjour.
L'album Sokono, qui signifie « dans la pièce en mandingue », a été enregistré dans une chambre d'hôtel au Japon. Pourquoi ?
C'était le producteur qui voulait un disque acoustique. J'ai dit, moi, je n'ai jamais voulu faire un disque acoustique parce que je ne suis pas un bon guitariste, mais je m'accompagne quand je fais des compositions. Il dit, oui, mais c'est bien de montrer aux gens comment tu composes. J'ai dit, pourquoi pas. Quand on était au Japon, il a dit, bon, on peut le faire dans une chambre d'hôtel, comme si j'étais à la maison, vraiment, comme si je jouais pour moi, très intime.
Et les chansons, de quoi parlent-elles?
Ces chansons parlent des personnes qui ont perdu des amis très intimes, des enfants. Ces chansons parlent surtout d'amour, en général. Elle, femme,
mansa. Salif Keita, vous avez toujours été une voix forte sur les sujets de société et politique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Je suis patriote. Je participe au travail pour le pays. Je suis là. Ma voix, c'est pour le pays.
Vous pouvez développer?
Je suis dans l'art. Je cherche à qu'on n'oublie pas les traditions dans la musique, pour qu'on n'oublie pas surtout les anciens instruments traditionnels qui sont en voie de disparition. Mais au niveau des textes, c'est des griots actuels, des rappeurs qui parlent des problèmes du pays. Mais je suis très critique sur la façon que la musique se passe. J'aimerais que les musiciens fassent la musique d'une façon très originale. Je suis engagé et je resterai engagé.
Salif Keita, engagé patriote et critique, vous l'êtes. On se souvient qu'en 2019, vous avez accusé la France de financer les djihadistes au Mali dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux qui a fait polémique.
Jusqu'à présent, en tout cas, nous recevons tous les jours des attaques on ne sait pas d'où ça vient. Moi, je suis pas politicien, je suis pas un enquêteur, je suis pas parti aux enquêtes pour savoir qui est qui fait quoi. Mais on aimerait bien être aidé par toutes les puissances qui voient que le Mali est assailli par des djihadistes. On ne sait pas d'où ils viennent.
Mais est-ce que votre opinion a changé depuis? Vous regrettez?
Je suis un Malien qui a déjà vécu en France et mes enfants sont des Français. Donc je peux pas être autre chose que quelqu'un qui a été adopté par les Français. Les Français et la politique française, c'est pas pareil. Parce que il faut comprendre ce que la politique française fait en Afrique. Mais les Français sont des amis des Maliens. Mais la politique française est tout autre chose que les Français ne comprennent pas.
Qu'est-ce qui vous pousse encore aujourd'hui, à 75 ans, à sortir de nouveaux disques?
Je voulais montrer aux gens seulement comment je compose les morceaux, d'une façon très intime, personnelle.
Salif Keita, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Salif Keita sera en concert le 21 mai au Trianon à Paris, avant sa tournée européenne. Et on se dirige maintenant vers le festival de danse contemporaine On Marche à Marrakech. On en parlait avant-hier avec le chorégraphe et danseur Oulouy. Le festival se termine aujourd'hui vendredi, un festival qui offre de plus en plus de place à la jeune génération. Par exemple, avec le concours Taklif, qui depuis 3 ans offre aux jeunes primés des moyens pour créer et avancer dans leur formation. Reportage Muel Malouf.
Taklif, il m'a donné une chance parce que c'est la première fois que je connais c'est quoi la dramaturgie, c'est quoi l'écriture chorégraphe, la mise en scène.
Mohamed Badou vient du hip-hop. Il fait partie des lauréats des 2 dernières années qui présentent des projets créés à l'issue de résidences artistiques. Najma Haj Ben Chalabi, coordinatrice de Taklif.
Taklif, en fait, c'est tenter de créer un accompagnement artistique, de travailler le langage du corps et surtout qu'il y ait transmission. Ça veut dire que les aînés en chorégraphie, qu'ils soient marocains ou d'ailleurs, puissent transmettre et puissent aussi nourrir ce qui est en train de balbutier.
Iman El Kabli s'inspire, elle, de la haïta marocaine, ce chant populaire féminin des cheikhats, qui veut dire les femmes mûres.
Dans le corps, il y a le bassin et la tête qui dirigent, qui prend la décision. Et je vois que cheikhats, c'est des femmes qui dansent avec le bassin et la tête. Et j'ai pensé que, à cause de ça, elles ont vraiment une voix forte. Donc, j'ai inspiré par ça, par la danse de bassin et la danse de la tête, parce que c'est une danse qui prend la décision.
Et c'est avec sa propre poésie qu'Iman cloue son solo touchant et puissant. Quant à Yasmine Ben Sherifa, elle vient, elle, de la danse urbaine.
J'ai commencé par le hip-hop à 10 ans et en 2017, j'ai vu la danse contemporaine pour la première fois. Quand j'ai vu ça, j'étais vraiment fascinée. Je me suis dit, c'est ça ce que je veux vraiment faire, pas rester toujours dans le hip-hop, mais faire une danse qui réfléchit, ou bien réfléchir bien avant de danser. Et pour moi, la danse, c'est un monde qui n'a pas de fin.
Des jeunes talents que le festival On Marche promeut, contribuant à créer ainsi une nouvelle génération de danseurs contemporains au Maroc. Muriel Mahalouf, Marrakech, RFI.
RFI 23h19 à Rabat, 9h19 à Nouméa.
Le journal des Outre-mer.
À la une de ce journal des Outre-mer, du nouveau sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Lou Surande, bonsoir.
Bonsoir. Un projet d'accord a été transmis par l'État aux délégations indépendantistes et non indépendantistes le 30 mars dernier. Un texte qui doit servir de base aux discussions avant le retour attendu du ministre des Outre-mer Manuel Valls en Nouvelle-Calédonie fin avril. Que contient pour l'instant ce document? Élément de réponse avec Charlotte Menvie de Nouvelle-Calédonie la première.
L'État propose de conserver l'exercice du droit à l'autodétermination, mais il s'agirait désormais de référendum de projet et non plus de dire oui ou non à l'indépendance. Pour être soumis au vote des Calédoniens, il faudrait aussi que ce projet soit adopté par le Congrès à la majorité des 3/5. Les indépendantistes devraient donc mobiliser au-delà de leur camp pour pouvoir déclencher un référendum. Ce point devrait donc être âprement discuté au cours des pourparlers. Les compétences régaliennes, relations internationale, défense, police, justice ou encore monnaie continuerait d'être exercée par la France qui promet de mieux associer la Nouvelle-Calédonie en instaurant par exemple un comité stratégique de défense, mais pas de représentation auprès de l'ONU ni de police coutumière comme souhaité par les indépendantistes. La Calédonie conserverait un gouvernement et 3 provinces qui seraient les grandes gagnantes de la nouvelle organisation institutionnelle en récupérant la compétence fiscale, une proposition qui ne fait pas l'unanimité et qui devrait elle aussi être largement débattue d'ici au retour sur le territoire de Manuel Valls prévu fin avril.
À la Réunion, opération protection des pétrels de Barreau, ces oiseaux endémiques de l'île. Chaque année, au mois d'avril, la CEOR, la Société d'études ornithologiques de la Réunion, lance une campagne d'information et de sauvegarde de ces animaux. Reportage d'André Racoton-Dravola de Réunion La Première.
Lorsque cette espèce protégée s'envole pour rejoindre la mer de nuit, elle va s'orienter grâce aux lumières naturelles, la lune et les étoiles. Julie Tourmette, responsable du centre de soins à la CEOR, la Société d'études ornithologiques de la Réunion.
Le souci, comme leur colonie se trouve au centre de la Réunion, au niveau du Piton des Neiges, ils vont utiliser les couloirs d'envol principaux, donc les grandes ravines, pour rejoindre la mer et ils vont faire face à tout ce qui est barrière de lumière à travers tout ce qui est éclairage public et éclairage privé. Et du coup, ils sont désorientés par ces lumières qui sont artificielles.
La CEO rappelle donc les Réunionnais à réduire, voire à éteindre leur éclairage durant la période du 11 avril au 7 mai, afin de limiter les échouages, sinon mettre en sécurité les échoués.
Il est important de le mettre dans une petite boîte en carton, au calme, et ensuite appeler la CEO. Et nous, on vous orientera vers un poste relais, le temps que les bénévoles du centre de soins puissent aller le récupérer.
Tout au long du mois d'avril, 950 à 1300 pétrels de barreaux devraient être retrouvés échoués. Ces chiffres pourraient être largement dépassés en cas de non-extinction maximum d'éclairage ou de mauvaise météo.
Et direction l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon où l'internat de la réussite a ouvert ses portes au public en cette fin de semaine à Saint-Pierre. Opération séduction pour l'établissement qui accueille ses premiers élèves depuis septembre dernier. Pour le moment, l'internat accueille 6 lycéens sur les 26 places disponibles. Des jeunes qui se retrouvent à côté de leur établissement scolaire dans un archipel où il faut parfois prendre le bateau tous les jours pour aller en cours. L'internat est donc une option pratique et confortable. Reportage d'Emma Guérin de Saint-Pierre-et-Miquelon, La Première.
Une infrastructure qui était très attendue des jeunes miquelonnais. À l'occasion de ces portes ouvertes, parents, élèves ou encore professeurs sont venus découvrir l'internat. Parfois par simple curiosité, comme Alexandre Andrieux, élève de seconde, il part en internat dans l'Hexagone à la rentrée prochaine.
Si je suis venu, c'est oui, par curiosité, mais surtout parce que l'an prochain, je pars en France et justement, je vais aller dans un internat donc pour voir à peu près à quoi ça ressemble, même si je sais que ce sera pas pareil. Franchement, c'est beau, c'est bien équipé. Donc j'espère que là où est-ce que je vais aller, ce sera tout aussi bien.
Faire découvrir les locaux, les horaires ou encore l'organisation, c'est l'objectif de ces portes ouvertes. L'internat, c'est avant tout un projet et pas seulement un lieu de vie. Julien Génon, proviseur adjoint.
Donc nous, ce qu'on souhaite, enfin toute l'équipe qui est en charge de l'internat souhaite faire découvrir les lieux aux visiteurs. Et surtout, ce qu'on souhaite avant tout, c'est de démontrer que l'internat, c'est pas uniquement un lieu d'hébergement, mais c'est avant tout un projet. Et notre projet, c'est d'accompagner les élèves, de les faire réussir scolairement et de les accompagner dans leur projet d'orientation et de faire en sorte que l'internat, ce soit un lieu où on puisse s'accomplir et se sentir bien.
L'équipe éducative espère atteindre un effectif de 12 élèves à la rentrée prochaine. L'objectif final serait de remplir les 26 places disponibles.
C'est la fin de ce journal. Bonne soirée sur RFI.
Merci Lou Surance. Bonne soirée et bon week-end.
Le Conseil Santé avec Sounou Assurance.
Alors, ça ne me concerne pas, vous non plus certainement, mais c'est toujours intéressant. Caroline Paré s'intéresse ce soir avec son invité aux défauts.
Docteur Adrien Chaboch, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin généraliste et psychothérapeute à Paris. Quand on prend conscience de ses propres défauts, comment réagir? Est-ce qu'il faut d'abord essayer de les comprendre?
Oui, tout à fait. Vous avez donné déjà une clé de réponse très importante, c'est d'en prendre conscience. Tant qu'on lutte contre, on va se mettre dans un processus agressif à notre égard qui va nous dévaloriser et nous culpabiliser. En fait, nos défauts, on pourrait observer que ça pourrait être l'envers d'une qualité. Et ça, c'est un point que je vous propose de considérer pour partir de ça et se dire finalement ce défaut, à quoi me sert-il ? Qu'est-ce que je pourrais en faire ? Plutôt que de lutter contre, c'est un peu comme si on était dans un courant, essayons de se mettre dans le sens, ma colère, est-ce qu'elle me protège ? Ma timidité, est-ce qu'elle me permet d'observer ? Et de ce point de vue, alors, vous allez en découvrir de nouvelles choses, vous allez en faire quelque chose, et petit à petit, évidemment, ces défauts vous feront moins de problèmes dans la vie.
Et quand on dit gérer ses défauts, qu'est-ce que ça veut dire ?
Usuellement, gérer les défauts, dans notre société basée sur la performance et sur l'excellence, ça voudrait dire les effacer. Et ça, c'est totalement impossible. Au contraire, ça fait plus de mal de penser qu'on peut les effacer. Ce sont des sortes de stéréotypes, d'idéalisation de notre société auxquelles il faut se méfier. On ne peut pas être ce que nous ne sommes pas. Donc, la première chose, c'est de nous connaître et de faire avec.
Merci docteur Chaboch. Aujourd'hui dans Priorité Santé, émission Question de femme, nous allons parler de la perte d'appétit. Quand la faim diminue en raison du stress, d'une maladie, comment éviter les carences et y a-t-il des solutions pour retrouver l'appétit et une alimentation équilibrée ? On se donne rendez-vous à 9h10, 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Caroline Paré, un dernier mot avant la fin de 24 ans en France. Une société de production française vient d'être condamnée à plus de 50 000 euros d'amende pour la destruction de 520 œufs de flamant rose de Camargue, dans le sud-ouest de la France. L'équipe de tournage avait utilisé des ULM qui avaient effrayé les oiseaux en volant à basse altitude. Sur le site de nidification, plus de 11,5% de la reproduction annuelle de cette espèce en France avait été perdue. C'est la fin de 24 heures en France. Merci à Fabrice Viollet, réalisation, Loïc Bussière, la rédaction en chef. Dans quelques instants, Afrique Soir. Avant cela, on part à la Bourse de New York, évidemment.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et c'est avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones termine la semaine sur un gain de 619 points qui le reconduit à 40 213 et le Nasdaq s'offre 337 points. Pour finir à 16 724, la bonne tenue des marchés d'actions cache aujourd'hui une fuite des capitaux investis en dollars et en particulier en obligations. Ces dégagements précipitent, entre autres, de fortes hausses de l'euro et de l'or, ainsi que des matières premières. La confiance, à la fois dans la conjoncture américaine, mais aussi dans la politique économique du président Trump, est ébranlé. Les investisseurs anticipent une récession aux États-Unis et une nouvelle aggravation du déficit budgétaire américain. Le pessimisme se nourrit de la riposte de Pékin aux nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis aux produits chinois, une riposte destinée à rendre totalement invendables sur le marché chinois des denrées ou des produits fabriqués aux États-Unis. Donald Trump attendait des signaux d'ouverture de négociations de la part de Pékin. Ces signaux ne sont pas venus. On voit aujourd'hui la perte de confiance dans l'économie américaine provoquer une envolée à 4,49% du rendement du T-bond à 10 ans. Les nouveaux signes de chute de l'inflation aux États-Unis au mois de mars n'ont aucun effet positif sur le marché. L'once d'or sur le COMEX gagne encore plus de 2% et atteint plus de 3 248 $ et le baril américain de pétrole reprend près de 3% pour revenir à plus de 61 $. L'euro bondit à 1,1340 $, profitant bien sûr de la faiblesse du billet vert. L'indice Dow Jones aujourd'hui regagne 1,6%, le Nasdaq reprend 2,1%. Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones a regagné 5% et le Nasdaq s'offre plus de 7%.
C'était Pierre-Yves Dugas, merci.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Semaine plutôt folle sur le terrain des barrières douanières. Après l'annonce par Donald Trump d'un gel de 90 jours des taxes à l'importation qu'il venait d'imposer et du maintien de celles décidées pour la Chine, Pékin a appelé au compromis, ouvrant la porte à des négociations. Le rapport de force n'en reste pas moins à un niveau élevé.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Samedi, à partir de 17h10 TU.
RFI. L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement, l'information quand vous voulez.